With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
C'est malheureusement presque un élément du décor de l'hôpital, au même titre que le panneau bleu avec un grand H au milieu. Je veux parler de ces banderoles et de ces draps blancs accrochés au-dessus de l'entrée des hôpitaux, aussi bien à Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt qu'à Auch dans le Gers. Urgence en grève, tous réclament plus de moyens pour soigner les Français. Les hôpitaux ont un besoin urgent de soins et ça ne date pas d'hier.
Ah, oh, vous dites que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, oh, vous dites que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Ouais.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va se demander comment sauver le soldat hôpital en espérant qu'il ne soit pas trop tard. On se rend rarement à l'hôpital par plaisir, sauf à la maternité pour les naissances. Pour le personnel soignant, les temps semblent aussi très durs, comme en témoignent les nombreuses manifestations partout en France, ponctuées par une journée d'action le 14 novembre. L'hôpital ne va pas bien. Beaucoup dénoncent le manque de personnel, les journées à rallonge. D'autres font le constat d'un service public au bord de l'asphyxie financière. En 2018, les hôpitaux publics ont perdu 650 millions d'euros, alors que dans le même temps, la dette atteint 30 milliards d'euros, un niveau élevé au regard des capacités de remboursement des hôpitaux pris dans leur ensemble, constate la Cour des comptes, qui appelle dans le même temps à une attention renforcée des responsables hospitaliers. L'heure serait aux économies, mais l'hôpital en a-t-il seulement les moyens ? Solveig Godeluc est journaliste aux Échos, spécialiste des questions de santé publique. Solveig, d'abord, pourquoi est-ce que l'hôpital public est en crise ?
L'hôpital public, il est en crise depuis assez longtemps déjà. C'est quand même pas nouveau, c'est juste qu'il y a une espèce d'accumulation depuis... on parle de 10 années de baisse des tarifs des hôpitaux. Les tarifs, c'est ce dont ils vivent. C'est des efforts sans arrêt. Il y a eu un trou de la sécu assez important au moment de la crise en 2008. Et il a fallu resserrer tous les boulons, tout revisser. Et il y a une composante dans l'assurance maladie qu'on arrive particulièrement à bien à gérer, à piloter. C'est l'hôpital, parce que il suffit de couper le robinet, et puis en dessous, tout le monde, tous les directeurs d'hôpitaux, tous les services, tout le monde revisse les boulons. Alors, à la fin, il y a un petit peu des problèmes pour les patients, hein. C'est eux qui trinquent quand il n'y a plus de lit, quand il n'y a plus de serviettes propres. C'est comme ça qu'on gère, en rabotant, en coupant sans arrêt, et à un moment, ça ne marche plus.
Alors, il y a des grèves à répétition, beaucoup de manifestations dans les établissements qui bénéficient du soutien au moins moral des Français. On sait que plus de 8 Français sur 10 soutiennent les grévistes dans les urgences, par exemple. Et souvent question de manque de bras dans la gestion quotidienne des hôpitaux, au point que plus d'un quart des postes de médecins sont vacants. C'est ce que vous expliquiez, Solveig, dans une enquête passionnante dans les Échos. Oui.
Alors, ils ne sont pas tout à fait vacants, en vrai. Le nombre de postes de titulaires à plein temps qui ne sont pas pourvus. Mais à la place, on a quand même des gens, on bricole. Et donc, on trouve des contractuels qui sont parfois, d'ailleurs, des titulaires qui se sont fait passer en contractuels parce que ça les arrange d'être libres, d'être éventuellement un peu mieux payés, etc. Ils sont sûrs, de toute façon, les médecins, de retrouver du boulot derrière. Il y a des intérimaires qui sont également, souvent, les mêmes praticiens hospitaliers, fonctionnaires qui reprennent un job supplémentaire, alors même qu'ils sont à plein temps. Hein. Donc voilà, il y a ce phénomène d'intérim qui se développe. Et puis ensuite, il y a tous les professionnels qui font des heures supplémentaires, on appelle ça du temps de travail additionnel, et qui souvent d'ailleurs ne se les font pas payer, puisque c'est stocké sur des comptes d'épargne-temps qu'on n'arrive jamais à liquider.
On va parler justement de ce phénomène de l'intérim qui s'est développé au cours de ces dernières années à l'hôpital. Je vais citer cette phrase d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. C'est ce qu'elle vous a déclaré, Solveig. Les intérimaires profitent du manque de médecins pour se servir sur la bête. Ils grèvent considérablement le budget des hôpitaux. L'intérim, c'est un gouffre ?
On ne peut pas vraiment parler de gouffre à ce stade. On n'a pas d'ailleurs de chiffre officiel, je précise. On ne connaît pas exactement l'ampleur du phénomène de l'intérim. Mais on ne peut pas parler de gouffre absolu, puisque le budget des hôpitaux, c'est 80 milliards chaque année. Et là, on est plutôt en centaines de millions. C'était 500 millions d'euros selon le rapport, mais qui date de 2013, du député Olivier Véran. Et c'est plus aujourd'hui, probablement. Donc, ce n'est pas les sommes dans l'absolu qui sont un énorme problème pour les hôpitaux. Moi, je dirais que c'est plutôt un aspect moral, démoralisant pour les gens qui travaillent à l'hôpital. C'est-à-dire que l'intérim, il s'est développé comme une sorte de remède, d'abord parce qu'il n'y a pas assez de monde. C'est la démographie, l'énorme problème. C'est toujours la démographie, que ce soit en ville comme à l'hôpital. Il n'y a pas assez de médecins. On n'a pas assez préparé les années qui viennent en formant suffisamment de médecins. On a trop serré le numerus clausus. Donc, il y a cet énorme problème-là. Et puis, il y a des salaires qui n'ont pas suivi. Ça ne veut pas dire que les médecins sont mal payés. Ils ont de très bons salaires par rapport à la moyenne des Français. Mais si vous comparez avec le privé, avec les cliniques qui sont tout à fait libres de pratiquer les salaires qui leur conviennent pour retenir le personnel, ça ne marche plus à l'hôpital. Vous n'arrivez plus à trouver des anesthésistes, des radiologues. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Pénurie plus salaire insuffisant. Donc, on est obligé d'aller chercher des intérimaires qui sont souvent, comme je vous le disais, les mêmes, qui peuvent arrondir leurs revenus et du coup, jouer à niveau équivalent avec quelqu'un qui serait dans le privé. Ce n'est pas seulement un problème financier. Il y a des pertes, mais il y a surtout une énorme désorganisation. C'est-à-dire qu'on leur court après, au dernier moment, on n'est pas sûr d'en avoir, on ne sait pas si on ne va pas devoir fermer un service. On se retrouve aussi avec des absurdités, telles que des services, finalement, on préfère les fermer parce que ça va coûter moins cher. Je pense à des services de soins de suite et rééducation qui ne sont pas payés au volume d'activité pour les hôpitaux, mais qui sont payés à l'année, c'est une dotation annuelle. Donc finalement, on ne va pas perdre d'argent si on les ferme, alors quand on ne trouve pas les intérimaires ou quand on n'a pas les moyens parce qu'on trouve que c'est beaucoup trop cher et qu'il faut qu'on fasse des économies, eh ben, on ferme les soins de suite et rééducation, et tant pis pour les patients, hein, mais voilà, on n'a pas le choix. Les directeurs d'hôpitaux doivent gérer un budget qui est insuffisant.
Vous avez passé des coups de fil, justement, notamment en Bretagne, pour essayer de voir comment ça se passait concrètement sur le terrain. C'est un vrai sujet d'inquiétude pour les hôpitaux et pour les directeurs d'hôpitaux.
Oui, alors j'ai fait un focus sur la Bretagne parce qu'ils ont eu une initiative particulièrement intéressante dès 2018, donc l'année de la mise en œuvre d'un décret qui limite les rémunérations des intérimaires pour empêcher les dérives salariales. Donc ils ont eu une initiative assez intéressante. Ils se sont dit, non seulement on va appliquer ce décret, mais on va essayer d'être unis face à des intérimaires qui ensuite tapent à toutes les portes et regardent le mieux offrant. Et on va faire un appel d'offres régional. Il y a une quarantaine d'établissements qui ont lancé des marchés pour l'intérim. Donc ils ont sélectionné 5 agences d'intérim médical parce qu'il y a beaucoup d'agences qui existent comme ça. Et puis ils se sont dit, on va aussi essayer de favoriser des gens qui sont déjà praticiens hospitaliers sur place et qui veulent arrondir leur fin de mois et donner un coup de main en fait, qui ne sont pas des gens qui habitent forcément très loin, mais qui vont revenir. Ce sera les mêmes, on les connaîtra, ils participeront au travail d'équipe. Donc on va encourager ça plutôt que le phénomène de l'urgentiste parisien qui vient faire une pige, on lui paye le TGV, on lui paye le logement, on lui paye la cantine. Alors je reprends l'exemple de la Bretagne, ce qui n'empêche pas qu'à un moment, toute cette envie de travailler ensemble ne marche plus. Parce que l'été, quand on a une vraie pénurie, eh ben, il faut quand même que ça tourne. Donc tant pis, on viole le décret et on paye plus, mais il faut qu'on l'ait cet intérimaire, il faut qu'on ait du personnel au lit du patient.
On a bien compris, hein, Solveig, que pour des raisons notamment démographiques et puis parce que beaucoup plus de Français utilisent chaque jour, chaque année, les services des hôpitaux, on est en manque de personnel et de médecins dans les hôpitaux. Comment est-ce que le gouvernement compte y remédier ?
Alors, c'est l'objet de la grande stratégie de transformation du système de santé qui a été rebaptisée Ma Santé 2022 et qui a été présentée en grande pompe par le Premier ministre début 2018 et ensuite par Emmanuel Macron en septembre 2018. C'est une stratégie qui est assez ambitieuse, mais qui est plutôt long terme, c'est-à-dire c'est 5-10 ans. Ça part dans tous les sens. Hein. Donc il y a d'un côté suppression du numerus clausus, donc on va pouvoir recruter plus de médecins, mais ça ne viendra pas en un jour, parce qu'il y a aussi des places à créer dans les universités. et des profs dans les universités aussi. On manque de tout, hein. On manque de médecins, et c'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi à la fac. Il y a aussi d'autres actions, telles que la délégation de tâches et de compétences médicales à d'autres professions. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça peut se développer assez rapidement. Donc c'est les pharmaciens qui peuvent vacciner en pharmacie, pour la grippe pour l'instant, mais ça pourrait s'étendre. Qui peuvent aussi, non pas prescrire, ça se dit pas prescrire pour les pharmaciens, mais qui peuvent tout de même vous donner certains traitements remboursés alors que vous n'avez pas d'ordonnance. Il y a les infirmiers qui peuvent faire des tâches qui étaient auparavant réservées aux médecins. Alors à chaque nouvelle loi de budget de la sécurité sociale depuis 2 ans, on a de nouvelles attributions qui sont décidées pour les infirmiers. Il y a plein de dérivés possibles pour économiser du temps médical, puisqu'il est rare, et faire monter en compétences les autres professions. Le problème numéro un étant que ces compétences nouvelles, il faut les rémunérer. Et il n'y a pas d'argent dans les caisses.
Des centaines de pancartes, brandies par des milliers de soignants à bout de souffle. Internes, ambulanciers, pédiatres ou médecins, tous les métiers de l'hôpital public ont défilé ensemble aujourd'hui.
Les organisateurs de la manifestation du 14 novembre évoquaient la nécessité de créer un rapport de force avec le gouvernement. En fonction de la mobilisation, on aura de petites ou de grandes annonces, disaient-ils. Une chose est sûre, la manifestation a été un succès. Et dès l'après-midi, le président Emmanuel Macron indiquait qu'il avait entendu le message.
J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Nous devons investir et assumer d'investir plus fortement que nous n'avions au début envisagé de le faire, parce que la situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée.
Alors on a bien compris, hein, la balle est dans le camp de la ministre Agnès Buzyn qui présentera son plan pour les hôpitaux mercredi. Cela sera-t-il suffisant pour calmer la grogne ? L'État n'a-t-il pas mis trop longtemps à réagir alors qu'à l'hôpital, la déprime menace le personnel ?
C'est une ambiance compliquée, c'est une ambiance faite de tensions, parce que les rythmes ne sont pas les mêmes, la pression n'est pas la même qu'avant.
Frédéric Valtoux est président de la Fédération hospitalière de France.
Dans les hôpitaux, moi je croise beaucoup de gens qui sont fiers de travailler à l'hôpital, sont heureux de travailler à l'hôpital, mais le vivent malgré tout plus difficilement qu'il y a quelques années, parce qu'ils voient bien que les moyens se réduisent, que l'activité, elle, ne réduit pas. Et que donc la pression du quotidien est plus forte, les plannings sont plus compliqués à organiser, que tout ça fait un quotidien qui est difficile.
Les manques de médecins que nous avons, qu'il s'agisse de la médecine libérale, des médecins dans nos campagnes, dans les quartiers les plus difficiles ou à l'hôpital, c'est le fruit d'une conviction établie pendant de longues décennies qu'il fallait réduire le nombre de médecins pour qu'on dépense moins en santé. Nous avons aujourd'hui du coup des insuffisances. Nous avons, je l'ai annoncé il y a maintenant un peu plus d'un an, rouvert massivement. Mais il faut 10 ans pour former un médecin. 10 ans. Les bonnes décisions, à mes yeux, ont été prises. Mais il faut du temps pour les mettre en œuvre, le temps légitime de la formation.
Emmanuel Macron indiquait jeudi avoir interrompu la spirale déflationniste des tarifs hospitaliers. Il a supprimé aussi le numerus clausus qui limitait le nombre de nouveaux médecins. On vient de l'entendre, hein, les bonnes décisions ont été prises, mais il faut du temps pour les mettre en œuvre. Ces mesures, c'est déjà une première réponse au défi des hôpitaux ?
Alors c'est vrai que les signaux qui sont donnés depuis 2 ans sont plutôt des signaux positifs. Sans faire de politique politicienne, on sort d'un quinquennat, le quinquennat précédent, qui sur les discours valorisait l'offre publique dans l'offre de santé. Mais quand on regarde les chiffres, c'est un quinquennat qui a énormément fragilisé l'hôpital, ne serait-ce que parce qu'on a mis sous le tapis des réformes structurelles qui étaient promises et attendues. Et les hospitaliers ont eu l'impression que finalement, les années passaient, on leur demandait toujours plus d'efforts, et ça, on le voit dans les chiffres, toujours plus d'économies. Et en même temps que les réformes de structure qui auraient rendu les économies supportables n'étaient pas faites. Je pense à la réforme sur les temps de travail, je repense au financement de l'hôpital, l'ajustement de la tarification à l'activité. Voilà, je pense aussi à des réformes qui concernent non pas l'hôpital, mais la médecine libérale, puisque finalement, l'hôpital, c'est aussi le réceptacle des dysfonctionnements du système de santé en général. S'il y a autant de monde aux urgences, c'est bien parce que les Français ont du mal à trouver des réponses, et les médecins généralistes, de ville, etc.
Ils ont aussi beaucoup de mal à trouver des médecins tout court.
Et oui, des médecins tout court, mais notre système de santé est normalement fait de telle manière à ce qu'on aille d'abord voir son généraliste, enfin, sauf urgence extrême et immédiate, mais on aille d'abord voir son médecin généraliste qui ensuite, en fonction de ce que vous avez, vous aiguille ou pas vers l'hôpital, vers des examens, etc. Mais aujourd'hui, les généralistes, ils sont de moins en moins nombreux. Ils ne sont pas incriminés. Ils bossent comme des fous pour ceux qui sont encore là. Mais il y a de moins en moins de cabinets de généralistes en France. On sait que dans les années qui viennent, ça va être le cas. Et donc, les Français vont directement à l'hôpital. Or, l'hôpital n'est pas conçu pour être un centre de soins de proximité. Ça s'appelle les urgences. Ça déborde et ça dysfonctionne.
Dans Les Échos, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'en est prise violemment aux pratiques de certains intérimaires qualifiés de mercenaires. Les adhérents de la FHF sont concernés au premier plan. Qu'avez-vous pensé de la déclaration de la ministre sur les méfaits de l'intérim ?
Mais elle a raison d'employer des mots aussi forts parce que c'est vraiment, on est vraiment dans des attitudes de mercenaires. C'est-à-dire,
vous le constatez tous les jours ?
On pourrait appeler des chasseurs de primes. Oui, on le constate tous les jours. Et finalement, vous êtes un peu otage de ces gens-là parce que on a beau avoir obtenu, nous, la Fédération hospitalière de France, d'Agnès Buzyn, que les tarifs des intérimaires soient encadrés, il n'empêche qu'on a parfois des intérimaires qui refusent les tarifs légaux et qui font jouer la surenchère en disant « Écoutez, moi, c'est bien simple. Vous me proposez, mettons, 2000 euros pour 24 heures de garde ou 24 heures de présence. Moi, je veux 2005. » Et si vous n'acceptez pas, ben je viens pas. Et que finalement, ben, parce qu'il y a l'obligation de continuité des soins, on a des hôpitaux qui lâchent et qui acceptent d'être hors des clous de la réglementation pour payer à vil prix des gens qui ont des attitudes de mercenaires. On est dans un système qui est totalement vicié, mais qui derrière pèse énormément sur les finances des hôpitaux. Donc, il faudrait arriver à mettre le holà d'une manière ou d'une autre. Nous, on avait alerté la ministre il y a maintenant un an et demi, et on avait alerté aussi l'Ordre des médecins sur des listes qui circulaient entre praticiens hospitaliers intérimaires. C'était la liste noire des hôpitaux qui respectent la réglementation. Et l'encouragement qui était donné par certains médecins, c'était « n'allez pas dans ces hôpitaux parce qu'ils respectent les rémunérations encadrées, plafonnées, allez plutôt dans les autres qui acceptent de déroger à la réglementation et vous pourrez gagner beaucoup plus cher. Si ça, c'est pas du mercenariat, alors qu'est-ce que c'est, quoi ?»
Alors la réponse qu'on entend souvent de la part de ceux qui pratiquent l'intérim ou qui font le choix de l'intérim, c'est que le statut de praticien hospitalier n'est pas attirant en termes de conditions de travail, de salaire, de pénibilité, c'est ce qu'a déclaré un médecin dans Les Échos. Ça, c'est le nœud du problème aujourd'hui pour l'hôpital, attirer justement du personnel.
Oui, mais c'est vrai que la crise actuelle aura peut-être cette vertu qu'elle met en plein jour le fait que l'hôpital ne paye pas bien les gens qui le servent. Et donc, c'est vrai qu'il faut travailler sur cette question d'attractivité. Alors, l'attractivité à l'hôpital, c'est pas que le salaire. Et c'est beaucoup pour ça aussi que des gens restent à l'hôpital et aiment l'hôpital. C'est que l'attractivité du métier à l'hôpital, c'est aussi le travail en équipe, c'est aussi les cas les plus difficiles. Enfin, c'est là qu'on a les patients plus compliqués que dans le privé, qui fait beaucoup de programmés, alors que bon, voilà. Donc, c'est pas la même pratique quotidienne pour un professionnel, l'hôpital. Mais voilà, il y a un moment, ça doit aussi s'accompagner financièrement.
Dans un édito d'Étienne Lefebvre dans Les Échos, il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup surpris. Il n'y a jamais eu autant de personnel soignant à l'hôpital, y compris des médecins, c'est vrai ?
Peut-être, mais il faut dire aussi que l'activité à l'hôpital s'est quand même beaucoup augmentée et que les gens se tournent de plus en plus vers l'hôpital, ce qui n'est peut-être pas sain dans le système de santé. On le voit aux urgences. Les urgences, c'est le seul service public qui a vu sa fréquentation doubler en 20 ans. On est passé de 10 millions de visites à quasiment 24 millions l'année dernière de visites aux urgences. Et on voit bien que si c'était le cas il y a 20 ans, c'est qu'il y a 20 ans, le tissu de la médecine de ville, la carte de la présence dans les territoires de médecins généralistes, etc., n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'énormes trous dans la raquette comme il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'hôpital pallie à des missions qui ne sont pas les siennes. Alors, on accuse l'hôpital, on dit « vous faites de l'hospitalocentrisme et vous-même, vous amplifiez tout cela », mais la mission d'un hôpital, c'est de prendre en charge toutes les personnes qui se présentent. Les hospitaliers ne se mettent pas devant la porte des urgences pour dire aux patients « venez chez nous » comme un restaurateur grec fait devant son restaurant. Et si les Français vont aux urgences, ce n'est pas les hospitaliers qui vont les chercher.
Donc, ce n'est pas une boîte de nuit, on ne va pas refuser du monde à l'entrée.
Ce n'est pas la mission universelle de l'hôpital.
Est-ce que on a beaucoup parlé de l'effet 35 heures aussi sur la désorganisation des hôpitaux. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas une remise en question ou en tout cas remettre un peu sur la table cette question des 35 heures à l'hôpital ?
Alors, il y a eu beaucoup d'établissements qui ont déjà remis à plat la question de l'organisation des temps de travail. Mais c'est vrai que ça reste un sujet globalement. Ce qui manque aujourd'hui à l'hôpital, c'est des éléments de souplesse dans la gestion. Parce qu'on gère pas un CHU comme on gère un hôpital de proximité. On gère pas un hôpital qui fonctionne grâce, ou qui pourrait mieux fonctionner grâce à des coopérations multiples avec la médecine privée, etc. Parce que dans son territoire, il faut que les forces médicales travaillent ensemble plus qu'ailleurs où il y aurait une offre qui serait différente. Voilà, les configurations des territoires sont différentes, les outils de gestion sont les mêmes. Et à partir de là, souvent, on sait que, pour reprendre une expression chère au président de la République d'avant, Emmanuel Macron, la boîte à outils aujourd'hui n'est pas adaptée et les outils de gestion du personnel, de gestion des effectifs, de gestion des rythmes de travail ne permettent pas aux hôpitaux souvent d'innover. C'est plus un carcan qu'un levier de changement. Et ça, ça reste un sujet. Ce qui est vrai pour le temps de travail, c'est vrai aussi pour les outils d'intéressement, d'accompagnement financier. On parlait de l'attractivité des carrières. Aujourd'hui, on ne peut pas accompagner des gens qui s'investissent particulièrement dans le service public.
Au-delà de la question du personnel soignant, la FHF insiste beaucoup sur un point. L'hôpital n'est pas un coût, il est un investissement. Mais avec 30 milliards de dettes, c'est difficile pour les établissements les plus endettés d'investir.
Pourquoi nous on insiste sur l'investissement ? Parce que pendant des années, l'investissement hospitalier est aux alentours de 5 milliards d'euros par an. Et l'investissement, ce n'est pas que des murs, c'est des machines qu'on remplace, c'est des équipements, etc. Et qu'aujourd'hui, on est à peu près à 2,5-3 milliards. Et donc, on a quasiment divisé en deux l'investissement. Et on sait qu'un secteur qui n'investit plus, c'est un secteur économique qui forcément prend du retard. Et ce qu'on n'investit pas aujourd'hui, il faudra le financer un jour. Donc, on peut le faire pendant 2-3 ans pour essayer d'asseoir une situation. Mais là, ça dure depuis maintenant plus de 6 ans. Et là aussi, ça devient dramatique. C'est pour ça qu'il faut relancer l'investissement. Et j'espère que ce sera non prévu dans le plan Macron.
Justement, le plan sera présenté mercredi. C'est pas la première fois qu'il y a des plans pour sortir l'hôpital de l'ornière. Le dernier en date, le plan de refondation des urgences n'a pas fait un tabac, j'ai envie de dire, auprès du personnel notamment. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ?
C'est compliqué parce que on est aujourd'hui dans une, je pense, dans une période où on a du mal à gérer le court terme et le long terme. Le plan qu'a annoncé Macron en septembre 2018, le plan Ma Santé 2022, va globalement dans la bonne direction. Et d'ailleurs, c'est la plupart des professionnels, qu'ils soient de libéraux, publics, etc., ont plutôt salué ce qui était dessiné à terme. Une offre hospitalière réorganisée, fermeture des petits blocs, mais en même temps des statuts qui permettent de faire travailler mieux médecine de ville, médecine hospitalière, des professionnels de ville qui s'organisent entre eux pour se fortifier. Enfin bref, parvenir sur tous les détails, mais globalement, ça va dans le bon sens. Sauf que on va mettre 4, 5, 6 ans à l'organiser tout ça. Et qu'aujourd'hui, le court terme, il reste un hôpital qui, depuis 10 ans, demande économie sur économie, un tissu de médecine de ville qui est en train de s'effondrer, et que tout ça crée des tensions qui sont des tensions immédiates. Et donc la rencontre entre un système qui est un paquebot et qui aura réussi à virer de bord dans 5, 6 ans, et les tensions d'aujourd'hui, font que les crispations ne se satisfont pas simplement qu'on leur dessine un long terme qui soit organisé et favorable. Et donc, il y a sans doute nécessité qu'on réponde à l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on desserre un peu les taux financiers sur les établissements hospitaliers, parce que l'année dernière, on a demandé 800 millions d'euros d'économies aux hôpitaux. En 2020, on va encore demander 700 millions d'euros d'économies. Donc, la mécanique d'étranglement lent de l'hôpital, sur le plan financier, elle qui est à l'œuvre depuis une dizaine d'années, c'est encore les recettes que l'on voit aujourd'hui et que l'on prévoit pour 2020. Et c'est cette mécanique-là dont il faut sortir absolument. Pour être plus précis, en 2020, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, on dit aux hôpitaux, vos dépenses, vos charges vont augmenter de 3,4%, et nous, l'État, on va vous donner des financements qui vont augmenter de 2,1%. Donc il y a un écart. À partir du moment où les recettes augmentent moins vite que les dépenses et qu'il ne faut pas faire de déficit, et bien donc c'est encore des économies. Et ces 15 dernières années, l'hôpital a fait 10 milliards d'euros d'économies. Donc les économies, elles ont été faites. La réorganisation, maintenant on achète, les hôpitaux achètent, on se met en groupe pour avoir des volumes importants et donc on rationalise les achats, on ferme des petits blocs chirurgicaux, on fait une petite maternité, etc., etc. On peut toujours en faire dans un système à 1 million de personnes et avec 1 000 hôpitaux. Il y a évidemment, on trouvera toujours encore des niches d'économie à faire. Et ce travail-là, il est fait. Enfin, mais sur des volumes aussi importants depuis aussi longtemps, il y a un moment où on ne peut plus, ça suffit.
Merci Frédéric Valtoux de la Fédération hospitalière de France et merci Solveig Godeluc pour ce tour d'horizon du malaise hospitalier français. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais aussi à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.